Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La personne de Jésus-Christ demeure au cœur du message de la Bible et de la foi chrétienne. Il est donc essentiel de comprendre la vie de Jésus et son ministère, le sens de sa mort sur la croix et sa résurrection.
C'est dans cette perspective que nous allons aujourd'hui nous pencher sur l'un des quatre évangiles. Les évangiles sont des livres bibliques qui relatent l'essentiel de ce que nous devons apprendre sur Jésus. Nous allons donc considérer l'évangile de Marc et nous demander pourquoi Jésus est porteur d'une espérance formidable pour tous ceux qui croient en lui.
Écoutons pour commencer la lecture de Marc chapitre 1, versets 9 à 13. Ensuite, Yann s'entretiendra avec Alain, afin d'en tirer les leçons les plus importantes.
Or, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, un village de Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel.
« Tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. »
Aussitôt après, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il y resta 40 jours et y fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient.
Merci Sandra et merci Alain d'être de retour parmi nous pour nous aider à mieux comprendre ces versets. Bonjour.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
La dernière fois, nous avons appris que le prophète Jean-Baptiste fut envoyé par Dieu afin d'annoncer aux hommes l'arrivée imminente du Sauveur promis tout au long de l'Ancien Testament. Voilà une bonne nouvelle proclamée dans un monde malheureusement trop marqué par les mauvaises nouvelles. Puis nous venons de lire aujourd'hui que Jésus est venu trouver Jean dans le désert afin de se faire baptiser par lui. Cette démarche peut étonner. D'une part parce que Jean-Baptiste venait de déclarer que Jésus est plus important que lui, et aussi parce que la Bible affirme que Jésus est innocent de tout péché. Le baptême illustre normalement la démarche spirituelle du désir d'être purifié de ses péchés. Pourquoi alors Jésus fut-il baptisé?
Le baptême de Jésus est le premier événement qui a marqué sa vie. Et si Marc a choisi de l'inclure dans son évangile, c'est qu'il faut lui accorder beaucoup d'importance. Pourquoi celui qui est innocent de tout péché devait-il passer par les eaux du baptême? Voici quelques pistes de réflexion. Beaucoup suggèrent que Jésus nous montre simplement un exemple à suivre et qu'il s'identifie ainsi à notre humanité. D'autres affirment que sa démarche revêt une signification plus riche et plus importante encore que celle du simple exemple. En effet, dès le début de son ministère, Jésus montre qu'il prend la place du pécheur. Il prouve qu'il va régler le problème du péché. Le baptême de Jésus est donc un signe, un panneau indicateur, qui nous oriente vers la croix où Jésus a pris la place du pécheur. C'est là qu'il a subi la juste colère de Dieu et que par son sacrifice, il a pourvu à notre purification.
Et le baptême de Jésus fut accompagné de signes extraordinaires.
Oui, il est écrit dans l'évangile de Marc qu'une voix retentit du ciel pour déclarer à Jésus et à la foule présente « Tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie ». Ainsi, en nous présentant Jésus, Marc nous révèle immédiatement son identité. Jésus est parfaitement homme, certes, mais il est aussi le Fils de Dieu.
Beaucoup de nos jours trouvent ce titre « Fils de Dieu » choquant, voire blasphématoire.
Ce titre serait effectivement choquant si Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Nous pouvons affirmer d'ailleurs que l'une des raisons pour lesquelles Marc a écrit son évangile est pour prouver cette étonnante affirmation et pour convaincre que Jésus est bel et bien le Fils de Dieu. Et au fur et à mesure que nous avancerons dans notre étude de ce livre, nous espérons que beaucoup d'entre vous, chers amis, arriveront à cette même conviction. Mais aujourd'hui, je voudrais simplement attirer l'attention de tous sur le fait que c'est Dieu lui-même qui a annoncé le premier que Jésus est son fils. Ce n'est pas Jésus qui prétend l'être. Ce n'est pas non plus une invention d'homme pouvant se tromper ou voulant tromper les autres, non. Cette vérité, aussi incroyable qu'elle puisse paraître, est annoncée par Dieu lui-même. Il est rare que Dieu parle des lieux célestes comme il l'a fait en ce jour-là. Et si Dieu parle ainsi aux hommes, c'est parce qu'il a une vérité importante à leur communiquer, une annonce à leur faire qui certainement va les troubler. Nous devons prendre au sérieux ce que l'Éternel déclare et ne pas rejeter d'emblée ses paroles simplement parce qu'elles ne correspondent pas à notre façon de penser ou à nos traditions.
Mais pouvez-vous nous aider à comprendre ce que signifie Jésus est le Fils de Dieu ?
Tout d'abord, il est essentiel de préciser ce que cela ne veut pas dire. Il faut par exemple absolument rejeter l'idée que Jésus est né d'une liaison sexuelle entre Dieu et une femme. Affirmer une telle chose serait blasphématoire. Ensuite, je voudrais rapidement évoquer trois vérités auxquelles nous reviendrons davantage en détail dans nos futures émissions. Premièrement, comme un fils ressemble souvent à son père, dire que Jésus est le Fils de Dieu est une façon d'affirmer qu'à travers le caractère de Jésus, nous découvrons le caractère de Dieu, car c'est en contemplant Jésus que nous apprenons à connaître Dieu. Ensuite, dire que Jésus est le Fils de Dieu, c'est évoquer l'harmonie et les relations étroites qui régnaient entre Jésus et Dieu. C'est souligner la relation de confiance et de soumission du Seigneur Jésus envers Dieu. Enfin, dire que Jésus est le Fils de Dieu, c'est évoquer sa nature divine, son identité céleste et éternelle, ce mystère de l'incarnation, la vérité que Dieu est devenu homme.
Merci Alain de nous avoir éclairé sur ce sujet difficile. Jésus a donc vécu un moment fort lors de son baptême. Mais tout de suite après, nous lisons que l'Esprit de Dieu le conduisit dans le désert, où il dut rester 40 jours pour y être tenté par Satan.
Le récit de cet incident est davantage développé dans les évangiles de Matthieu et de Luc, où nous lisons la façon dont Jésus a résisté à ses tentations et les a surmontées. Pour être le sauveur des hommes, Jésus a vécu à notre place une vie juste et parfaite, et a réussi là où d'autres ont échoué, là où d'autres ont connu le péché. Ce récit sur la tentation de Jésus nous fait penser à l'histoire d'Adam et Ève. Eux aussi furent tentés par Satan. Cependant, l'un et l'autre se laissèrent séduire par ses paroles trompeuses, et tous deux désobéirent à Dieu. Du coup, Dieu les maudit, et jusqu'à nos jours, tout homme et toute femme héritent de ses malédictions. Toutefois, Dieu a aussi annoncé par ses prophètes que l'un des descendants d'Ève triompherait sur Satan et annulerait ses malédictions. Cette personne nous sauverait du péché, de Satan et de la mort. Le récit de la tentation de Jésus au désert nous permet donc de croire et d'espérer que Jésus est celui qui accomplira ses promesses. Il a résisté à la tentation, triomphé des attaques de Satan, et au fur et à mesure que nous progresserons dans notre étude de l'évangile de Marc, nous découvrirons beaucoup plus d'éléments nous permettant de croire que Jésus est celui qui nous délivrera de toutes les malédictions qui pèsent sur le monde et sur nos vies.
Merci Alain. Marc annonce l'arrivée de Jésus comme une bonne nouvelle et nous commençons à comprendre pourquoi Jésus est le Tout-Puissant venu nous sauver. Nous sommes impatients d'en savoir plus, mais il faudra attendre notre prochaine émission.
Nous remercions Yann et Alain pour leur participation. Et à présent, nous allons passer à notre courte méditation biblique.
Nous allons considérer un extrait du psaume 40. Sandra va nous le lire et ensuite Sébastien nous fera part de ses réflexions.
J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un hymne de louange pour chanter notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, beaucoup voudront révérer l'Éternel et lui faire confiance. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux, perdus dans le mensonge.
Souvent, ceux qui se trouvent dans des situations difficiles ignorent vers qui se tourner et ne savent pas où trouver du secours. D'autres, désespérés, ont recours à des solutions qui peuvent sembler prometteuses, mais qui s'avèrent trompeuses et ne font qu'empirer leur situation. À la fin de l'extrait lu sur le psaume 40, David écrivait des paroles qui rappellent les proverbes. « Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel » et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux, perdus dans le mensonge. David a vécu une situation traumatisante. Il s'est senti piégé, impuissant et maintes fois il a frôlé la mort. Toutefois, comme il en témoigne, Dieu l'a secouru, Dieu l'a délivré. David en arrive à la conclusion suivante. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel. Et il nous met en garde contre tous ceux qui proposent des solutions mensongères, trompeuses et dangereuses. Vers qui vous tournez-vous dans la vie quand tout va mal? Certains font appel à ceux qui manipulent les esprits, qui pratiquent la sorcellerie. Ceux qui ont recours à de telles manifestations ou de telles pratiques occultes sont ennemis de Dieu, car ils consultent le diable, appelé le père du mensonge. Ne plaçons surtout pas notre confiance en ces personnes, ni en leurs pratiques. Ce chemin semble à première vue attrayant, mais il conduit inévitablement à la catastrophe. D'autres, pour sortir d'une impasse, ont recours à des solutions immorales et injustes, telles que le mensonge ou le vol, la vengeance ou la violence. Une fois de plus, ne nous engageons pas sur une telle voie, car elle ne nous apportera que des ennuis et conduira à notre perte. L'impuissance et le désespoir sont si présents dans l'esprit de certains qu'ils en arrivent à vouloir y échapper en buvant de l'alcool ou en consommant des drogues dangereuses. Une fois de plus, de telles solutions sont trompeuses et ne font que multiplier malheur après malheur. L'auteur du psaume, David, fut pourchassé par le roi Saül. Ce dernier le traquait, dévoré par la soif de le mettre en pièces. Maintes fois, David s'est retrouvé dans des situations durant lesquelles il aurait pu assassiner Saül afin de protéger sa propre vie. Beaucoup, d'ailleurs, ne lui auraient jamais reproché un tel acte. Et pourtant, David renonça à la vengeance. Il préféra attendre l'intervention de Dieu. Cette intervention finit un jour par arriver et Dieu lui prouva ainsi qu'il était véritablement digne de confiance. David ne s'est tourné ni vers les idoles, ni vers les esprits, ni n'a eu recours à la violence. Il a invoqué l'Éternel et il n'a pas été déçu. Fort de son expérience, il nous encourage à faire de même.
Merci Sébastien. Merci de nous rappeler qu'en toute situation difficile, nous devons placer notre confiance en Dieu. Sébastien nous rejoindra la prochaine fois pour une nouvelle méditation sur le psaume 40. En attendant, nous vous disons au revoir et à bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.